Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite les grands lignes de cette première édition. Des émissaires du président de la République de Sierra Leone ont été reçus en audience hier lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le porte-parole de la délégation dit être venu, entre autres, traduire la gratitude de Julius Maada Bio à son homologue ivoirien pour son soutien à la candidature du pays à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'éminent juriste ivoirien Francis Vaudier s'est éteint hier lundi à 87 ans. Le décès de ce grand constitutionnaliste et homme de devoir est une grande perte pour le monde juridique ivoirien. C'est ce que retient entre autres docteur Arsène Nenebi, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, que nous entendrons dans ce journal. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier soir dans un discours à la nation très attendu qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat présidentiel. Francis Kassi passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour et puis en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction le professeur Alban Auré, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES au centre des échanges. Les retombées pour les pays africains du récent sommet international portant sur le nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu du 22 au 23 juin dernier à Paris en France. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier, lundi 3 juillet, des émissaires de son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Au centre de l'entretien, l'élection du président, sinon l'élection des membres non permanents des Nations Unies, Dr Abbas Bondou, président du Parlement Sierra Leonais, à leur sortie d'audience.
First of all, it's a great privilege and honor for us to be received by His Excellency President Ouattara today.
Premièrement, je voudrais dire que c'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçus en ce jour par Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés par nos présidents respectifs afin de transmettre à Son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays.
And things have been moving on from that perspective.
Voilà l'instant, Dr Abbas Bondou, président du Parlement Sierra Leonais. Examen à grand tirage à présent, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a lancé hier lundi au lycée moderne à Alassane Ouattara d'Anyama les épreuves écrites du baccalauréat 2023 et visité la salle dédiée à la vidéosurveillance. Ce sont 164 330 filles et 182 080 garçons pour pour un total de 346 910 candidats, dont 20 135 candidats libres qui prennent part à ces épreuves dans 551 centres d'examen. Zéro fraude, eh bien c'est l'objectif du gouvernement ivoirien qui a déployé des moyens nécessaires pour y parvenir. Les précisions de professeur Maria Toukone.
Nous sommes venus encourager d'abord le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourager tous les enseignants, tout le personnel d'encadrement, encourager les surveillants, la police, vraiment tous ceux qui nous aident à la sécurisation du baccalauréat. Nous avons constaté que la lutte contre la fraude, qui est notre credo, est en train de porter. Pourquoi ? Parce que tous ceux que je viens de citer contribuent à lutter considérablement contre la fraude. Comment ? À partir des chiffres que nous avons, en 2020, nous avions plus de 16 000 cas de fraude. 2021, nous en avons eu un peu plus de 10 000. 2022, nous sommes arrivés à 4 132 exactement. Donc nous encourageons tous ceux qui encouragent le gouvernement à crédibiliser les diplômes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui encouragent le gouvernement à valoriser nos diplômes, tous ceux qui encouragent le gouvernement et surtout qui encouragent les parents d'élèves et les élèves à redoubler d'efforts afin que ce soit le travail réel qui soit apprécié. Et tout cela participe au rayonnement de notre chère Côte d'Ivoire. Nous redoublons d'efforts en termes de sécurisation des examens. Vous avez vu qu'il y a la vidéosurveillance, il y a la DTSI, la police scientifique qui nous accompagne. Nous avons des traceurs de signaux, nous avons des surveillants traditionnellement en classe, nous avons des détecteurs de métaux. Nous avons renforcé les moyens de détection de la fraude.
Voilà à l'instant, professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa. Et puis instauré depuis 3 ans maintenant, la vidéosurveillance a été étendue à tous les centres d'examen et renforcée en termes de caméras et de surveillants. Il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, a expliqué Kone Yenataban, le directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
De façon concrète, nous sommes dans un réseau de fibres optiques. Dans le cadre d'un projet, une fibre optique a été déployée sur l'étendue du territoire pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, toutes ces caméras sont connectées à des points dans les différentes villes. Et chaque ville est rattachée au serveur central que nous nous appelons le data center, qui est au niveau d'Abidjan. Et donc, depuis Abidjan, nous pouvons prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les établissements. Dans chaque établissement, nous avons un surveillant vidéo sur place. Nous avons 4 équipes de supervision, c'est-à-dire les équipes de supervision prennent le contrôle de ce que les surveillants locaux font. Donc, le surveillant local peut ne pas observer une situation, mais ceux qui sont au niveau de l'équipe de supervision à un niveau plus élevé peuvent, eux, à leur niveau, identifier des situations et alerter le point focal qui est sur place. Lui, à son tour, peut faire visualiser les images par le président du centre et quand les faits sont constitués, le candidat est conduit au secrétariat et puis la procédure adéquate se déclenche.
Voilà, c'était Kone Yenataban, le directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et puis signalons que la publication des résultats du baccalauréat session 2023 est prévue le 24 juillet 2023 à 14h. Lors de l'ouverture de la première édition du Forum des dirigeants postaux africains qui se tient en ce moment à Abidjan par l'Union postale universelle autour du thème « Les postes africaines sur la voie de la transformation numérique et de l'innovation », Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique, a exhorté les uns et les autres à relever les défis liés à l'adaptation des postes africaines à l'ère du digital. Ses arguments sont les suivants.
Ce forum réunit les acteurs du secteur postal africain du Moyen-Orient, les acteurs institutionnels et des partenaires de l'UPU, notamment les acteurs des plateformes de commerce électronique, les intégrateurs de e-santé et e-gouvernance. Je reste convaincu que votre forum sera une excellente opportunité d'échange et de réflexion sur les différentes problématiques liées à la mise en œuvre de la transformation numérique et de l'innovation dans votre domaine. Les postes doivent savoir savoir en permanence se réinventer, intégrer des métiers nouveaux, tirer le meilleur parti des technologies nouvelles. La tenue du présent forum et la mise en œuvre des décisions qui en résulteront, plus de deux années après l'organisation du congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire, confirmeront une fois de plus la forte volonté du gouvernement ivoirien de s'approprier les résolutions de la stratégie postale d'Abidjan. Aussi voudrais-je d'ores et déjà me féliciter de la diversité des sous-thèmes qui seront débattus au cours du présent forum et qui sont porteurs de réflexions utiles dans la recherche de solutions pour un avenir rayonnant des postes. Je sais donc pouvoir compter sur l'expertise de tous.
Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique. Le juriste ivoirien Francis Vaudier s'est éteint hier lundi à 87 ans. Son décès est une grande perte pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et c'est également une grosse perte pour le monde juridique. En tout cas, c'est ce que retient ici, entre autres, docteur Arsène Nenebi, enseignant, chercheur à l'université Alassane Ouattara de Wake, de cet éminent professeur de droit qui vient de disparaître. Son témoignage.
C'est une personne qui a formé de nombreux juristes. Francis Vaudier reste quelqu'un qui aura aimé véritablement la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a toujours souhaité que les questions politiques en Côte d'Ivoire se règlent par le jeu de la négociation, par le jeu de la concertation. Il est ce qu'on appelait le père de la concertation nationale. Je pense que Vaudier aurait pu apporter beaucoup au Conseil constitutionnel ivoirien, parce que je crois que Francis Vaudier, un homme impartial, un homme fondamentalement indépendant, fait partie des personnalités que la Côte d'Ivoire devait avoir à ce poste-là. Donc sa nomination à ce poste était une chance pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il ait démissionné, malgré le respect de la décision, ça nous a laissé un goût amer. Le professeur Vaudier, je garde l'image d'un professionnel, d'un universitaire, d'un homme de devoir, d'un homme engagé pour son pays, d'un homme aimant la Côte d'Ivoire. Toujours penser à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire en tout et faire montre d'intelligence nationale lorsqu'on a à discuter de problèmes liés aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Il faut privilégier l'intérêt du pays en tout temps et recourir toujours au dialogue et éviter toute autre forme d'alternative. C'est une grande sommité qui nous quitte et notre prière, c'est que Dieu l'accueille auprès de lui.
Voilà, c'était Dr Arsène Nenebi, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Dans l'actualité internationale, à la surprise générale, le président sénégalais ne sera pas en lice, n'est-ce pas, pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Dans un discours à la nation très attendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise, Macky Sall, à travers cette déclaration, met un terme, n'est-ce pas, suspense de plusieurs mois et déjoue ainsi les pronostics qui le voyaient concourir une troisième fois. Macky Sall a beaucoup évoqué la sécurité et la paix dans son pays, qualifié d'insoutenable et d'inexcusable. Ces violences ont mis à l'épreuve notre cohésion sociale, des événements particulièrement graves occasionnant des morts et des blessés et la destruction massive de biens publics et privés, a déclaré Macky Sall. Le président a aussi rappelé à plusieurs reprises que la violence n'était pas une solution, semblant répondre à l'allocution de l'opposant Ousmane Sonko dimanche soir, qui appelait à sortir dans la rue pour finir le combat. Macky Sall a également salué un dialogue national réussi et a dressé un autosatisfaction de son action à la tête de l'État. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour César, bonjour à tous. Commençons notre revue des titres des journaux de ce mardi par l'alliance PDCI-PPACI sur laquelle des journaux se divisent. D'abord, ceux qui la voient pas trop sûrs, comme le Patriote avec ce titre. L'alliance PDCI-PPACI en 1000 morceaux, désormais chacun pour soi. Suivi à cet effet de cette critique de Le Jour Plus. Élection du 2 septembre, révélation sur les manœuvres malsaines du PPACI et du PDCI dans l'AMI. Avant que le mandat, qui essaie de comparer leur camp au camp présidentiel, n'écrivent. Élections locales, voici les rapports de force entre RHDP et l'opposition. Mais à contre-courant de ses précédents confrères, le Nouveau Réveil note à sa une. Élections locales du 2 septembre, coalition PDCI-RDA-PPACI, l'espoir pour la victoire. ce sur quoi renchérit la voix originale qui indique « La coalition PPACI-PDCI-RDA prête à écraser les adversaires ». Quand pour le temps sur le même sujet, municipal à Koumassi, PDCI et PPACI donnent le ton. L'actualité politique au Sénégal intéresse aussi une des quotidiens ivoiriens ce 4 juillet, avec l'annonce hier par le président Macky Sall de sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle. Coup d'État constitutionnel raté. Les Sénégalais ont fait reculer Macky Sall. Titre à ce propos, le Nouveau Réveil. Quand l'avenir lui dit Sénégal, présidentiel 2024, Macky Sall renonce à un autre mandat et se replace au centre du jeu. Ainsi que notre voix ceci. Sénégal, Macky Sall renonce au troisième mandat. Vos tabloïdes se font également l'écho de cette triste nouvelle tombée hier en fin de matinée concernant l'ex-président du Conseil constitutionnel et réputé professeur de droit, Francis Vaudier. Décès du prof Francis Vaudier, Florigel pour un grand maître. Annonce Fraternité Matin. Idem pour Dernière Heure Monde. L'éminent homme de droit est décédé hier. La Côte d'Ivoire pleure, professeur Francis Vaudier. Selon Génération Nouvelle, retiré de la vie politique et publique, professeur Vaudier a tiré sa révérence hier, avant que l'avenir ne conclue ainsi. Décès du professeur Francis Vaudier, le pape du droit, a tiré sa révérence. Et les journaux prolongent l'information nécrologique avec le défunt ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'expression décrit le concernant. En trois, du décès d'AGC, le lion toujours dans le cœur des Ivoiriens. Quand le sursaut bouge sa part, s'interroge. En trois, du décès de l'ex-premier ministre, ce qui reste de l'héritage d'Amadou Gon Coulibaly. Ses héritiers sont-ils vraiment à la hauteur? Merci et bonne lecture de vos journaux.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens avec Francis Cassi. À présent, l'invité de la rédaction, Jean-Claude Comé, reçoit le professeur Alban Auré, enseignant en économie à l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody également, directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Dans cet entretien, il est question des retombées pour les pays africains du récent sommet international portant sur le nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu du 22 au 23 juin dernier à Paris, en France.
Professeur Alban Auré, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Claude Comé.
La capitale française, Paris, a accueilli pendant deux jours un événement mondial. Il s'agit du sommet pour un nouveau pacte financier international. Alors, un tel sommet, quel est son enjeu, selon vous?
Un tel sommet parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très difficile de pénurie du financement. Pénurie du financement, particulièrement pour les pays en développement. Et cette pénurie du financement est liée à plusieurs facteurs conjoncturels, notamment récents. Nous avons l'inflation mondiale consécutivement à la crise ukrainienne. Nous avons également les effets de long terme de la COVID-19. Nous avons aussi les questions de la hausse des taux d'intérêt liés notamment à cette inflation-là. Et bien sûr, il faut faire face à cette pénurie du financement. Et ce sommet donc est bienvenu pour aider les pays africains, les pays du Sud à pouvoir s'accorder avec les pays du Nord sur de nouveaux mécanismes de financement pour, juguler les inégalités croissantes liées à ces crises, à ces chocs exogènes récents que nous avons observés, mais aussi pour faire face à la problématique du changement climatique, à la question de la protection de la biodiversité.
Alors, l'accent sur le terme « nouveau pacte financier », pourquoi, selon vous, il faut revoir donc ce pacte-là? Quelle est la situation actuelle?
Mais la situation actuelle concernant le pacte financier, nous avons bien sûr les questions d'aide publique au développement, donc l'appui des partenaires internationaux aux pays en développement notamment. Donc nous avons l'aide publique au développement, nous avons la mobilisation des ressources sur les marchés financiers internationaux. Vous avez tout ce qui est Eurobond avec les pays africains. Donc ça, c'est le pacte financier qui existe. Et maintenant, on se rend bien compte qu'il est très difficile de mobiliser sur les marchés financiers avec la hausse des taux d'intérêt. Voyez, et surtout avec tous les risques dans les pays consécutivement aux crises récentes. Et bien sûr, nous avons ces pays eux-mêmes qui ont des difficultés de mobilisation des ressources domestiques. Je vais parler des pays en développement. Mmh. Donc voilà une situation interne des pays qui est très complexe. Comment arriver à créer ce qu'on appelle l'espace budgétaire, mobiliser suffisamment de ressources domestiques? On est coincé par les crises. On est coincé au niveau international parce que les ressources ne sont plus suffisantes. Les pays donateurs font face à des besoins de financement énormes avec les crises qui existent, hein, la crise alimentaire ou l'inflation sur les céréales. Également, nous avons le financement de tout le soutien mondial qu'il y a pour notamment faire face à la crise ukrainienne. Mm-hmm. Donc, nous avons tous ces aspects-là qui font qu'il faut repenser, les mécanismes de financement. Avec cette crise, l'endettement, parce que beaucoup de pays en développement connaissent une situation de surendettement élevée, pour repenser les mécanismes, pour voir comment continuer de financer les pays en développement dans un contexte mondial de pénurie du financement.
Pénurie voilà. du financement, vous l'avez dit, hein. Que peuvent espérer justement ces pays du Sud de ce nouveau pacte financier international?
Mais il y a plusieurs pistes de solutions qui sont envisagées. Par exemple, comment intensifier les financements concessionnels et publics, par exemple. Et les questions du climat et du développement. Comment mieux intégrer les questions de changement climatique dans les mécanismes de financement. Ça aussi, c'est extrêmement important, les financements verts, et ainsi de suite. Voilà. Parce que plusieurs pays sont des pays vulnérables face à ces changements climatiques qui affectent des secteurs de production comme le secteur agricole, par exemple. Avec la les températures, tous les changements dans la pluviométrie, ainsi de suite. Et un autre point, c'est le rôle des financements privés. Voilà, les financements privés, comment mieux mobiliser ces financements privés, comment mieux contrer la hausse des taux d'intérêt, ainsi de suite. Ça aussi, c'est des réflexions importantes. Mm-hmm. Et bien sûr, la question d'asseoir ces financements-là sur une vision d'accélération de l'émergence des pays africains, par exemple. Alors, comment avoir des ressources additionnelles pour financer son développement? Faire face à ces chocs, je pense que les pays africains ont beaucoup à gagner là-dedans.
Pourquoi ce ne serait pas des occasions aussi pour les Africains de réfléchir à une nouvelle stratégie de mobilisation interne donc de leurs ressources?
C'est aussi un point extrêmement important. Comment nous arrivons notamment sur les questions du secteur informel qui est près de 90% des emplois, une contribution de l'ordre de 30 à 40% des PIB des pays d'Afrique subsaharienne, favoriser le civisme fiscal dans nos États? Voilà, comment mieux maîtriser la dépense publique, parce qu'il faut aussi de l'efficacité dans la dépense publique? Comment mieux gérer les questions de la dette dans nos États? Ce sont des éléments importants et il y a des réflexions là-dessus. Je peux vous le dire pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et tout cela, ça devrait entraîner des projets et programmes, et ça devrait permettre d'aller de l'avant en termes de mobilisation des ressources domestiques. Surtout que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons une pression fiscale assez faible.
Professeur Abban Auré, je vous remercie pour ces éclairages.
Merci bien, M. Jean-Claude Comé.
Voilà, le professeur Abban Auré, enseignant en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et également directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, était avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des titres. Des émissaires du président de la République de Sierra Leone ont été reçus en audience hier lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le porte-parole de la délégation d'y être venu, entre autres, traduire la gratitude de Gilles Madabio à son homologue ivoirien pour son soutien à la candidature du pays à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'éminent juriste ivoirien Francis Vaudier s'est éteint hier, lundi à 87 ans. Le décès de ce grand constitutionnaliste et homme de devoir est une grande perte pour le monde juridique ivoirien. C'est ce que retient, entre autres, Dr Arsène Nenebi, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, que nous avons entendu dans cette édition. Enfin, dans l'actualité internationale au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier soir dans un discours à la nation très attendu qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat présidentiel. Voilà, c'est la fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
À notre frère, Arsène, si tout disparu, que la terre nous soit légère.